Bonsoir. Rendre ses lettres de noblesse aux mathématiques. Il paraît que le niveau des élèves est catastrophique. Oui, dans un rapport qu'il a coécrit, Cédric Villani, médaille Fields, et aujourd'hui député de la majorité, fait 21 propositions pour améliorer le niveau et surtout les faire aimer, ces mathématiques. Oui, oui, justement, parce que ces mathématiques, elles ne sont pas déconnectées de la réalité. Bien au contraire, elles ne sont pas juste un objet de sélection. Non, non, on voit par exemple les maths, comment l'industrie, comment la santé, comment l'économie, comment la finance viennent y puiser des idées. Alors, les maths sont-elles vecteurs de croissance? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ah oui, on va parler maths. Ne nous quittez pas, surtout. Non, vous allez voir, c'est passionnant. Il faut aimer les maths et vous verrez toutes les applications concrètes qu'elles ont dans la vie de l'économie. Oui, celui qui a coécrit avec Cédric Villani, il est avec nous. C'est Charles Torossian, mathématicien, inspecteur général de l'éducation nationale, copilote de la mission sur les mathématiques. Oui, l'application à l'industrie. Marco Herman est avec nous, directeur de la recherche et technologie dans le grand groupe d'électronique qu'est Thales. Olivier Lecomte, professeur de finance à l'école centrale Supélec. Aviva Sperglas, elle est chercheuse au laboratoire de mathématiques de l'université de Poitiers, laboratoire du CNRS, elle est membre de la commission pour l'enseignement des maths. Et Nicolas Bouzou, économiste à la tête d'Asterès qui signe le travail et l'avenir de l'homme. Charles Torossian, j'ai lu beaucoup de choses de vous. Bonsoir, monsieur Torossian. Ce que vous avez voulu montrer avec Cédric Villani, c'est que les maths, elles ont un poids qui dépasse quelque part leur poids réel de ce qu'on connaît finalement dans l'enseignement classique, etc. Ça va au-delà de la simple façon de recruter au niveau des grandes écoles. Elles sont partout, ces maths.
Alors, les mathématiques sont partout. Peut-être dire aussi qu'on était toute une équipe pour faire un tel travail, une vingtaine de personnes autour de Cédric Villani et moi-même. Bon, les mathématiques, c'est, j'allais dire, 20% du temps consacré pour l'enseignement. C'est un poids énorme dans le système éducatif, beaucoup d'investissements. Je rappelle quelques chiffres, 150 milliards, parce qu'on parle d'économie là, 150 milliards de budget pour l'éducation, 50 milliards pour l'éducation nationale, 25 milliards pour les enseignements. Donc, vous voyez,
ça pèse lourd,
et quand on regarde sur un temps long, finalement, nos élèves, effectivement, ils voient beaucoup de mathématiques.
Ouais, ils voient beaucoup de mathématiques, et je suis pas sûr qu'ils aiment tous ces mathématiques.
Ils vont aimer.
Ouais. Alors, ce que vous dites, dans ce rapport, c'est si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien. Il faut croire aux maths. Olivier Lecomte. Vous avez aimé les maths depuis le début, vous?
Ah oui.
Vous les enseignez, vous enseignez la finance à Centrale Supélec.
Ouais, depuis que je suis tout petit. Et c'était une époque, en plus, où on enseignait ce qu'on appelle les mathématiques abstraites dès le primaire. C'est-à-dire qu'on nous faisait raisonner. Moi, je me souviens, on m'a appris à travailler avec des bases qui n'étaient pas la base 10, alors qu'on était en CM1. On était assez audacieux à l'époque. Je pense que sur ce débat...
Aujourd'hui, en 2018.
Aujourd'hui, en 2018. Je pense que d'abord, il y a une grande confusion dans à quoi servent les maths. Il y a les mathématiques, j'allais dire, dans ce qu'ils peuvent rendre comme service à tout à chacun dans sa vie, c'est-à-dire la capacité à appréhender des ordres de grandeur, à appréhender quelques réalités du monde quotidien. Bon. Ensuite, il y a les mathématiques comme sujet d'abstraction, de recherche, qui va avoir des applications extrêmement nombreuses, on en parlera sans doute au cours de l'émission, mais là qui demande, pour le coup, une culture mathématique assez forte. Et puis ensuite, les mathématiques en tant que éducation de la pensée, le raisonnement, la logique. Donc quelque chose, le raisonnement mathématique comme matrice finalement d'un moyen de réfléchir qui peut s'appliquer évidemment à toute chose. Donc là, on va chercher plutôt à développer la rigueur, le sens logique, etc. Donc trois éléments, des confusions probablement dans l'importance des, et puis évidemment les mathématiques, j'ai oublié un quatrième élément qui est en tant qu'outil de sélection. Mais trois socles, j'allais dire, sur lesquels on n'a peut-être pas toujours pris un parti très clair sur ce qu'on voulait faire. Est-ce qu'on voulait former des mathématiciens? Est-ce qu'on veut permettre à la population générale d'acquérir donc un certain nombre de bases, et puis est-ce qu'on veut ensuite aussi apprendre aux gens à réfléchir, à penser de façon rigoureuse, et est-ce que les mathématiques dans ce cas-là sont le seul moyen d'y parvenir? Donc voilà, pour moi, des ambiguïtés qui n'ont pas toujours été tranchées, Et ce qui fait que le modèle a probablement erré ces dernières années.
On a eu jusqu'à s'engluer.
On a eu très peur de l'abstraction. L'abstraction fait peur, et je pense que c'est une erreur parce que l'abstraction, c'est ce qui nous rend humains. Hein, c'est ce qui probablement nous différencie de l'animal, la capacité à élaborer et utiliser des concepts. Bref, donc voilà, cette grande salade, j'allais dire, dans laquelle les mathématiques se sont trouvées mélangées, triturées, et pas forcément à bon escient.
Aviva Spirgla, chercheur donc au laboratoire de mathématiques du CNRS à Poitiers, Olivier Lecomte nous le dit, hein, c'est pas uniquement évidemment un élément du processus de sélection. Les mathématiques, elles sont utiles au-delà des cours qui sont dispensés aux élèves, aux étudiants.
Oui, bah alors effectivement, elles sont utiles évidemment dans les autres sciences, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que au lycée, on a coupé les mathématiques des autres sciences, voilà. En particulier de la physique. Ouais. Ce qui est dommage, à la fois pour la physique, parce que finalement, les élèves ne voient plus ce que c'est que la physique, ils ne savent plus ce que c'est, et pour les mathématiques, puisque ça permettait de donner plus de sens aux mathématiques. Donc j'espère qu'on va revenir là-dessus et qu'on pourra relier les mathématiques à toutes les autres disciplines. J'ai parlé de la physique, mais il y a aussi l'informatique, voilà. Mais il y a aussi la biologie, voilà, les sciences de la vie, il y a la chimie, et il y a aussi d'ailleurs les humanités, comme on dit, il y a les lettres et la philosophie, etc. Et je pense que c'est très important de remettre les mathématiques dans ce contexte général des sciences. Et ce qui s'était perdu ces dernières années. Et tout ça
rejaillit sur toute une chaîne de l'économie. Hein, Nicolas Bouzou, vous l'économiste. J'ai retrouvé un rapport datant d'un petit peu plus de 3 ans réalisé par Deloitte au Royaume-Uni. On parle du Royaume-Uni. Qui dit que la. Comment vous dites ?
15%.
Ouais, voilà. Qui dit que la contribution des mathématiques à l'impact. 2 800 000 emplois, 10% des emplois britanniques. La productivité également significativement plus élevée dans les professions qui font appel aux sciences mathématiques que la moyenne. Vous le confirmez, ça, Nicolas Bouzou ?
Non seulement je le confirme, mais surtout c'est un phénomène qui va s'accentuer ces prochaines années. Moi, je suis très sensible à ce que dit madame. Vous savez, quand on essaie de qualifier la mutation technologique en cours, on parle beaucoup de numérique. Bon, les anglo-saxons parlent de convergence des technologies NBIC. NBIC, 4 lettres. N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour informatique, information, et le C pour les technologies cognitives, c'est-à-dire grosso modo ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que c'est vraiment la convergence de ces technologies qui est en train de changer radicalement l'économie et qui est même en train de changer radicalement le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans toutes ces technologies, vous voyez bien que vous êtes au confluent de la physique, des sciences naturelles, avec un soubassement mathématique. Donc on voit bien l'importance des mathématiques dans la structuration qui est en train de prendre l'économie mondiale. Et c'est vrai à 2 titres. C'est vrai à titre individuel et c'est vrai à titre collectif. À titre individuel, bah aujourd'hui, si on veut construire le monde, si on veut participer à cette formidable mutation du monde, eh bien, on peut en effet étudier les mathématiques, la physique, la biologie, être fort dans ces disciplines et de façon tout à fait prosaïque. D'ailleurs, on cherche énormément de gens dans ces disciplines. Hein. Vous avez eu la grande gentillesse, Fabrice, de citer mon livre, qui est un livre contre les théories de la fin du travail. Elles sont tellement fausses, ces théories de la fin du travail, qu'en réalité, dans tous ces métiers-là, on cherche des gens. Hein. Donc, c'est pas le problème de la fin du travail. Donc, ces disciplines, et notamment les mathématiques, c'est très important à titre individuel et aussi à titre collectif, parce qu'on a absolument besoin d'être des leaders dans ces technologies. Et de ce point de vue-là, évidemment, et c'est d'ailleurs ce qui a suscité ce rapport, les résultats de la France ne sont pas satisfaisants. Et donc, il faut absolument agir, parce que derrière l'enjeu économique, il y a aussi un enjeu de souveraineté. Moi, j'ai aussi envie que l'Europe et la France participent à cette immense mutation.
Ouais, les NBIC, les technologies, les nouvelles technologies, la science cognitive,
la nanotechnologie.
Marco Herrmann, le monsieur innovation quelque part, le monsieur Géotrouve-tout de Thalès, vous êtes directeur recherche et technologie. Est-ce qu'on peut dire que sans maths, on n'aurait jamais parlé de big data, de modélisation, de cartes à puces, de robots, de cryptographie, de statistiques, etc.
Absolument, les mathématiques c'est essentiel aux ingénieurs quelque part, parce que finalement ce que l'on fait dans l'industrie c'est des choses réelles, des objets, des équipements, des systèmes, et vous avez avec grande pertinence souligné en fait que les mathématiques donnent une clé de compréhension de la physique, du monde réel. Les mathématiques c'est pas à côté, On peut se souvenir de Newton, de la gravitation avec les mathématiques, les équations, etc. Et donc tous les objets que nous faisons, un radar, un sonar, un système, s'appuient sur des mathématiques, de la description de la physique qui est derrière. Et on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas juste prendre un logiciel qui va vous calculer une fonction écrite à l'avance. On se doit d'avoir des gens qui comprennent, qui interviennent dedans. Donc c'est absolument essentiel pour la conception. Et puis après, vous avez cité le numérique. Alors il y a l'informatique qui n'est jamais très loin des mathématiques. Mais également ce qu'on a vu avec le big data, avec l'IA, derrière cela, il y a de l'algorithmie. Et les algorithmes, c'est des mathématiques. On a besoin, et du coup, des sociétés comme la nôtre, on embauche des mathématiciens quasiment purs qui vont enrichir leur parcours professionnel avec une connaissance métier. Mais pour ce qui est de leur bagage scientifique, il va être essentiellement fait par des mathématiques.
Vous attendez quoi d'eux quand vous les embauchez, ces mathématiciens ?
Ben, qu'ils soient bons dans leur discipline algorithmique, qui peut être basée sur la statistique.
Et qu'ils vous apportent quoi ?
Eh bien, ils vont pouvoir... trouver un algorithme, optimiser, paramétrer un algorithme, comprendre, faire déjà l'état de l'art de ce qui se passe dans les universités également, être créateur. On pense que dans ces domaines-là, nous, on n'est pas seulement réutilisateur de ce que font les autres, on se doit d'innover. Donc, ils vont devenir un élément de l'innovation, et l'innovation, c'est la croissance.
L'innovation, c'est la croissance, c'est un outil indispensable pour l'innovation, Charles Torossian, donc c'est mathématique.
Absolument, vous voyez, l'innovation, c'est aujourd'hui, on donnait ce chiffre de 15%, mais j'allais dire, c'est peut-être même au-delà, c'est-à-dire que en fait, là, on parle de la biologie, mais j'allais dire que la biologie, là, aujourd'hui, c'est sans doute un peu comme la physique du temps d'il y a trois siècles. Hein. C'est-à-dire que la mathématisation de la biologie devrait permettre de passer un cap, en fait, vraiment conceptuel. On l'a vu, là, j'allais dire, Stéphane Mallat est au Collège de France sur la chaire innovation. Et Stéphane Mallat raconte des choses absolument incroyables autour des big data. C'est-à-dire qu'en fait, la géométrie, le décryptage grâce à la géométrie de ce qui se passe dans les algorithmes. On comprend pas les algorithmes. Et faire des mathématiques, ça permet de comprendre. C'est un peu comme quasiment de la philosophie, vous voyez. C'est-à-dire comprendre les relations humaines, des choses comme ça. Et les mathématiques, ça permet de comprendre ce que font les algorithmes. Vous avez des techniciens aujourd'hui, avec un bac plus 3. On cherche beaucoup de bac plus 3. C'est-à-dire, je voudrais quand même rassurer nos jeunes aujourd'hui de dire, mais attendez, mathématicien, c'est quoi? C'est 8 ans d'études.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même,
ça fait
pas
peur.
Hein. Déjà
voilà. Je vais vraiment rassurer, vraiment rassurer les jeunes. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, là, c'est de dire, écoutez, moi, si j'avais 16 ans aujourd'hui, eh bien, je ferais quoi? Je ferais des interfaces entre mathématiques, biologie, médecine, etc.
Et oui, parce que, Marc Werman, les mathématiciens que vous recherchez, que vous souhaitez chez Thalès, ce sont des bacs plus 26 ou alors...
Non, il y a la palette, comme vous dites. Il y a la palette assez large.
Ce que je voulais dire... Je voudrais insister là-dessus. Il y a beaucoup de métiers qui utilisent des mathématiques.
Bah oui.
Beaucoup de métiers, beaucoup de débouchés pour les étudiants en mathématiques. Mais à tout niveau, je veux dire,
des bac plus 3.
BTS, au niveau bac plus 3, au niveau bac plus 5, il y a vraiment beaucoup de débouchés.
Dans des domaines extrêmement différents. On a cité la biologie, on aurait pu citer le climat, la forme des voitures aussi, la gestion du trafic, puisque vous êtes très fort là-dessus aussi chez Thalès, oui.
La médecine, il y a plein d'endroits.
Je veux dire, en médecine, par exemple.
La prédiction des cours de la bourse aussi. Enfin voilà, c'est partout.
Mais il y a quelques années encore, on faisait des prototypes pour faire voler des avions. C'est fini, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on a de la modélisation. C'est-à-dire qu'on passe de l'ordinateur directement à la production sans faire d'essai. Ouais. Demain, on va faire la même chose avec les médicaments grâce aux maths. C'est-à-dire il n'y aura pas un seul traitement anticancéreux qui ne sera pas individualisé grâce à des outils de modélisation. Et ça, j'allais dire, ce ne sont pas des maths super compliquées. Ce sont des gens qui auront fait un bac plus 4, bac plus 5, qui pourront traiter les modèles dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, moi je dis aux jeunes, allez-y, faites un bac plus 5 à l'université. Je dis aux universités, ouvrez des filières pour ouvrir des emplois. Et vous allez pouvoir travailler. Vous voulez faire médecine ? Vous n'avez pas pu faire médecin, ben c'est trop long, c'est un peu, voilà, vous avez un rapport au client, enfin, j'allais dire au patient, pardon, excusez-moi.
C'est pas grave,
c'est business, là, aujourd'hui, hein. Donc, non, mais, vous voulez travailler en mathématiques et puis dans l'humain, vous voulez travailler dans la biologie, il y aura des interfaces, vous allez pouvoir faire des traitements individualisés, vous allez paramétrer les modèles, etc. Ça va être formidable.
Ouais, c'est vrai, Nicolas Bouzou, Olivier Lecomte, ce que vient de dire Charles Torossian, c'est fondamental. Grâce aux maths, la simulation c'est un outil majeur. Hein. Ça permet de faire gagner du temps, justement, à l'industrie ou à la recherche. Et le temps, on en a besoin, c'est une priorité.
De diminuer les risques aussi, on parle des questions de santé. Quand vous modélisez l'impact d'un médicament sur le corps humain, ce sont des risques en moins que vous faites prendre à des patients potentiels. Cette question, elle est très importante, elle permet de comprendre comme les mathématiques peuvent avoir des débouchés concrets. Il se trouve que je travaille notamment sur l'économie de la santé et de l'oncologie, de la cancérologie. En cancérologie, aujourd'hui, on a à peu près un nouveau médicament tous les trimestres pour des pathologies pour lesquelles il n'y a pas eu de médicament depuis 15 ans. D'accord ? Donc vous voyez le niveau d'accélération. Ces médicaments, c'est deux choses. C'est de l'immunothérapie, c'est-à-dire comment on active le système immunitaire pour voir les cancers. Et c'est ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Une thérapie ciblée, c'est assez simple à comprendre. Au fond, le cancer est une maladie génétique. Donc on identifie des gènes qui fonctionnent mal et on bâtit des stratégies thérapeutiques pour faire en sorte que ces gènes soient modifiés et faire en sorte que la maladie ralentisse. C'est des mathématiques. Il s'agit bien de mathématiques. Et je termine juste pour aller au bout de mon propos. Je pense que, au fond, vous savez que dans les grandes périodes de mutation technologique, on dit toujours les métiers qui se développent le plus, c'est ceux qui sont tout en haut de l'échelle sociale et ceux qui sont en bas de l'échelle sociale qui sont protégés et au milieu, il y a plus grand chose. C'est vrai à court terme, mais ce que l'on voit historiquement, et je pense que c'est tout à fait ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est très pertinent aujourd'hui, c'est que le combo gagnant pour recréer des classes moyennes, ce sont des gens qui, à la fois, vont avoir des compétences liées à l'empathie sociale, au fait de savoir se comporter, etc. Je pense à l'hôpital en particulier, et en même temps, qui connaîtront un peu la physique, la biologie et les mathématiques. Vous voyez ce que je veux dire ?
L'informatique.
C'est le mélange des deux qui va permettre vraiment de redévelopper les classes moyennes.
On verra justement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les mathématiciens. N'étiez pas d'accord avec ce que disait Nicolas Bouzou, Olivier ?
Non, c'est encore très loin. C'est-à-dire le moment où on sera capable de véritablement simuler l'impact d'un médicament sur le corps humain est encore pour l'instant extrêmement distant. En oncologie, malheureusement, les applications sont plutôt limitées à la génétique. Et puis, mais bon, bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une capacité à modéliser, par exemple, l'évolution d'une tumeur dans un organe pour pouvoir, demain, guider le geste du chirurgien et l'inciter à aller chercher des marges plutôt dans un endroit que dans un autre, parce qu'on sait que, de façon prédictive, c'est plutôt dans ce sens-là que la tumeur risque de se développer. Ça, ce sont des applications qui sont en cours de développement, notamment au Collège de France, il y a quelqu'un qui fait ça très bien. La biologie a résisté jusqu'alors quand même assez fortement, excepté, encore une fois, la génétique. Mais la génétique, c'est qu'un aspect du problème, parce qu'après, derrière, vous avez toute la question de l'épigénétique. Enfin bref, donc tout ça nous emmène un peu loin. La biologie est sans doute le dernier domaine qui a résisté, j'allais dire, jusqu'à présent, à une mathématisation, à l'exception des statistiques, évidemment, qui sont à la clé de voûte de toute recherche médicale. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les mathématiques, vous disiez où est-ce qu'elles se trouvent, mais elles se cachent partout. Dans n'importe quel objet que nous touchons, il y a un calcul de résistance des matériaux, il y a...
L'aérodynamisme d'un avion...
Oui, mais même l'immeuble dans lequel on est, il tient parce qu'il y a des gens qui ont calculé la structure, hein, tout bêtement, et ça depuis Eiffel. Enfin, et à l'époque, les calculs étaient faits à la main. Bref, donc elles sont absolument partout, et elles amènent effectivement, comme le disait Nicolas, elles amènent de la sécurité, puisque finalement... La capacité fondamentale des mathématiques, c'est la modélisation, c'est-à-dire d'apporter une description du monde physique sous une forme abstraite, et cette forme abstraite va nous permettre ensuite de dire des choses sur l'avenir, enfin sur ce qui peut se passer. Et c'est cette propriété fondamentale, et d'ailleurs tout à fait stupéfiante, de notre monde, qui est d'être mathématisable, et cette mathématisation va nous permettre, encore une fois, de prévoir des choses, donc de créer des objets qui n'existent pas encore, donc effectivement, comme on le disait tout à l'heure, un avion, avant même qu'il n'existe, on connaît ses propriétés, on est capable d'assembler des matériaux de façon purement virtuelle pour à la fin de sortir directement un plan qui va aller à l'usine. Bon, bref. Donc, et c'est vrai aussi pour l'assurance, hein, tous ces mécanismes qui nous permettent de nous garantir, de nous protéger contre un certain nombre de risques, c'est bien derrière des mathématiques, puisque ce sont des calculs de probabilité.
Marco Herrmann, directeur de l'innovation et de la recherche chez Thales, c'est vrai, la modélisation mathématique, la simulation numérique, on n'est plus obligé de réaliser des prototypes.
Alors il y a ces exemples-là, puis on peut même aller un cran beaucoup plus loin, je vais vous donner deux exemples. Effectivement, ça fait gagner beaucoup de temps dans les réalisations. Pour réaliser aujourd'hui un radar comme celui du Rafale, etc., on ne fait pas juste des essais... avec du matériel, on va simuler l'ensemble de la physique, qui est compliqué, mais aujourd'hui, on a les moyens de calcul, de modélisation, qui permettent de le faire. Donc, on gagne énormément dans le cycle de vie, de conception. Mais ça, je dirais, c'est classique, mais difficile, mais classique. Dans des choses plus étonnantes, on est capable maintenant de modéliser, en fait, le comportement humain et de modéliser beaucoup d'individus. On va jusqu'à 50 000 individus interagissant entre eux. Et par exemple, on est en train de faire une démonstration à Singapour, sur le port de Singapour, un système de surveillance du port de Singapour, qui va en fait capter les personnes qui sont dans l'aéroport, qui va injecter les mêmes personnes dans un simulateur et qui va accélérer le temps pour voir ce qui va se passer. Et qui va donc permettre de donner des alarmes en prévention des éventuels dysfonctionnements du port naval de Singapour. Donc là, on est dans une complexité déjà assez intéressante, parce que vous avez l'humain, vous avez l'interactivité de l'humain et la capacité, donc finalement, à extrapoler le modèle pour faire une prédiction.
À se projeter sur l'avenir. Alors, Charles Torossian.
J'allais dire Singapour, mais plus près de chez nous, là, dans nos territoires, il y a plein d'endroits où la modélisation peut apporter, j'allais dire, une amélioration substantielle et sur les rendements et notamment sur la performance. On cherche des marges de croissance hein, ici en économie. Par exemple, prenez le transport des écoliers. Alors vous avez aujourd'hui, j'allais dire que c'est une science expérimentale. On a des cars qui arrivent comme ça, qui font des balais, etc. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les grandes cités, à New York, à Londres, à Paris? C'est quand même une modélisation du transport urbain pour l'optimiser. Il n'y a rien de tel qui existe aujourd'hui dans le transport scolaire. Donc il y a pas. Donc moi je dis, il y a un business pour nos jeunes de venir conseiller les politiques publiques. Par exemple, les conseillers départementaux, les régions, sur plein d'actions pour améliorer l'action publique qui va concerner le quotidien. Donc, on pourrait créer peut-être comme on fait des laboratoires de biologie, des sociétés d'ingénierie mathématique, peut-être dans nos territoires, dans nos préfectures, et qui pourraient capter du business et dire écoutez, on va gagner 5%, 5% ici, 5% là. J'allais dire, vous savez à quelle heure se lève un lycéen en France?
À l'école.
Non, il se lève à entre 6h et 6h30. Parce qu'il doit prendre un car, il a une heure de transport.
Donc tout ça, il faut le modéliser.
Si on peut gagner 20 minutes de sommeil, écoutez, vous avez gagné de la croissance. Là.
Et juste pour préciser un point sur l'exemple de Singapour, la technologie de simulation qui est derrière est faite par nos équipes en France. En fait, donc c'est les équipes scientifiques et techniques issues du tissu français qui ont fait ce travail-là. Donc effectivement, il peut être appliqué. Il était appliqué aux gares ferroviaires à Paris, etc., à d'autres objets en France. Et je dirais, les possibilités sont infinies, en fait.
Olivier Lecomte, on a parlé de la puissance publique. L'utilisation des mathématiques, on a vu qu'elle est considérable par les industriels, par les entreprises. On voit les applications extrêmement nombreuses. Mais est-ce qu'elle est vraiment répandue en France? Quand on voit le tissu de PME qu'il y a en France, est-ce que vraiment les PME sont les plus enclines à parler maths? Est-ce qu'elles ont tous les moyens possibles pour développer leurs activités de recherche, Olivier Lecomte?
J'ai l'impression que malheureusement, non. qu'il y a encore effectivement beaucoup de chemin à faire pour que ces outils, donc, qui sont couramment utilisés par les grands groupes,
L'exemple de Thalès, notamment. Voilà,
absolument, Thalès entre autres, mais enfin aujourd'hui.
Non, mais bien sûr.
Puisse donc percoler dans des sociétés de taille plus petite,
qui ont
souvent justement vis-à-vis de la R&D, recherche et développement, généralement en France, malheureusement, une attitude parfois un peu trop conservatrice, c'est-à-dire qu'on n'ose pas dépenser parce que on n'est jamais sûr, et évidemment quand on investit en R&D, on n'est jamais sûr qu'il y a un résultat au bout. Donc ça, c'est effectivement l'un de nos handicaps économiques, je pense, entre autres. Maintenant, on parle depuis tout à l'heure des bienfaits ou des utilités des mathématiques. Ce dont il était question aujourd'hui, c'est plutôt la façon dont on va les enseigner. Et je reviens à mes questions de départ, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de former des mathématiciens? Est-ce qu'on parle de former le public à quelques raisonnements mathématiques essentiels pour la vie. Et puis, est-ce que on parle aussi donc de former des esprits au raisonnement, hein, trois sujets qui pour moi sont assez
pour
distincts.
L'instant, on n'y a toujours pas répondu à votre
question. Et on n'a toujours pas répondu à cette question, voilà.
Aviva,
mais je crois qu'il faut faire les trois, hein,
les trois,
fait.
Bien sûr.
Oui, mais est-ce qu'on fait de la même manière et est-ce qu'on fait avec les mêmes personnes?
Je pense que par exemple, il faut que tous les jeunes aient un bagage scientifique minimal. Qui contient des mathématiques, mais aussi de la physique, mais aussi de l'informatique,
et aussi de
la biologie. Il y a un bagage minimum à avoir, et en particulier dans le bagage minimal, il faut avoir une idée de ce que sont les démarches scientifiques dans chacun de ces domaines. Que ce soit les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences expérimentales, l'informatique. Les démarches scientifiques sont pas les mêmes. Il faut l'expliquer. Et je pense que c'est très important parce que c'est aussi une manière de lutter contre les fausses nouvelles, ces genres de choses. Ensuite, il y a le fait de former des futurs utilisateurs des mathématiques,
experts,
qui sont les techniciens, les ingénieurs, etc., etc. Et puis il y a une toute petite partie des gens qui vont devenir chercheurs en mathématiques ou chercheurs en physique, parce que ils seront formés de la même manière en fait, d'une certaine façon. Mais évidemment, il faut faire les trois. Il faut faire les trois. On ne peut pas se permettre de faire seulement une seule partie. Et je crois que toute la communauté mathématique en est parfaitement consciente.
Et si on arrive à faire les trois, Nicolas Bouzeau, Charles Torossian, on arrive à redonner beaucoup plus de potentiel à cette croissance qui repose en partie sur les mathématiques?
Bien sûr, mais ça va au-delà, parce que madame a dit très rapidement, ça permet aussi de lutter contre les fausses nouvelles. Enfin, pour moi, ce sujet-là, il est absolument central, puisque le grand paradoxe, alors ce que je dis n'est pas nouveau, hein, Max Weber avait théorisé ça il y a plus d'un siècle, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, ce paradoxe selon lequel, en fait, on utilise tous énormément de technologies, on n'a jamais utilisé autant de technologies, mais on ne connaît pas les technologies. Et non seulement on ne les connaît pas, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un divorce entre les opinions publiques et les institutions, y compris la science, qui devrait être pourtant, la science, c'est le lieu de la vérité. Les mathématiques, on dit bien, c'est mathématique. Et pourtant, vous voyez bien que les gens pensent que les vaccins, par exemple, ça va pas les soigner, ça va les tuer. Et quand je dis ça, vous avez vu tout se passer, ce sondage, pardonnez-moi, je crois que c'est Ipsos, je veux pas dire de bêtises, mais enfin, qui a publié il y a 3 semaines un sondage sur les théories du complot en France, et la France était affectée, et la science était affectée comme la politique, hein, si vous voulez. Donc vous voyez que là, on a vraiment un sujet d'éducation.
Ah, moi, je fais attention, puis on revient justement avec vos propositions.
Alors, je rebondis, et donc là, c'est un peu un des thèmes central de notre rapport avec Cédric Villani et toute l'équipe qu'on a animée. C'est finalement redonner toute sa place à la vérité, c'est-à-dire à travers la preuve. Et c'est quelque chose qui nous a un petit peu choqués, je le dis en toute simplicité. On a regardé plein de livres, et il y a des livres de collège où il n'y a aucune preuve. Et donc, par exemple, les jeunes s'imaginent que, par exemple, un théorème comme Pythagore, eh bien, c'est juste une affirmation qui pourrait presque être contestable.
Oui, c'est sûr.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que, là, on arrive à une situation un petit peu délicate. Et j'allais dire que le rôle des mathématiques, c'est justement de dire qu'il y a des raisonnements qui fait que, eh bien, c'est une vérité incontestable.
Bon, on se retrouve dans un instant. Je vous demande pas le théorème de Pythagore, Nicolas Bouzeau.
Non, s'il vous plaît, non.
Non. Bon, très bien. Allez, mathématicien. A2 plus B2 égale C2, c'est ça?
Oui, A2 égale B2 égale C2. Et il faut comprendre pourquoi, quand on a une condition géométrique. Voilà.
La somme des carrés de chaque côté est égale au carré de l'hypoténuse.
Il y a même un président des États-Unis, mais c'est pas Donald Trump, qui a démontré, qui a donné une démonstration de ce théorème. Bon. Je pourrais vous l'expliquer tout à l'heure, si vous voulez.
Je n'ai rien perdu. À tout de suite. On continue. Donc, les maths, vecteur de croissance. On verra justement ce qu'on peut faire. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, les maths sont-elles vecteurs de croissance? Oui, il faut faire aimer les maths aux élèves, il faut redonner ces lettres de noblesse aux maths. Et c'est Cédric Villani qui est député de la majorité, mais d'Highfield, hein. Oui, l'un des 12 ou 13 prix Nobel entre guillemets de maths, qui a co-signé le rapport avec Charles Torossian, qui est avec nous, qui est inspecteur général de l'éducation nationale. 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques. Et on l'a vu, on l'a dit, hein, c'est fondamental justement ces mathématiques dans notre économie. Alors juste quand même, j'ai une question à vous poser, parce qu'on a dit que les maths, en effet, ça sert à tout, à l'industrie du médicament, aux finances, la lutte contre le cancer, la pollution, l'aérodynamisme des avions. On fait de la modélisation, ce qui permet à l'industrie de gagner du temps. Est-ce qu'il faut toujours et que des maths dans l'économie? Non. Bah tiens, j'en parlais cet après-midi, puisque maintenant il fait partie de l'équipe, hein, c'est Xavier Fontanet, qui est ancien patron des Silors, prof à HEC, qui donne des cours de stratégie sur BFM Business. Il me dit non. Il faut aussi beaucoup de psycho, beaucoup de droit, et le fond de tout, me disait-il, c'est la confiance qui va échapper aux équations mathématiques. C'est vrai, les maths, Nicolas Bouzou, on peut pas tout écrire à coup d'équations.
Non, et puis après, tout dépend ce que vous avez comme ambition dans la vie. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de très grand, il faut être bon dans plusieurs disciplines pour une raison qui est une raison liée au contexte. Quand on est dans des grandes périodes de mutation comme aujourd'hui, de destruction créatrice, disent les économistes, cette mutation, cette destruction créatrice, elle touche pas simplement la technologie. Elle touche l'économie, elle touche la société, elle touche la politique, elle touche le droit et elle peut même aller jusqu'à toucher l'art. Et donc, si vous voulez comprendre et avoir le plus d'influence possible, avoir le plus d'impact possible, eh ben il faut comprendre tout ça en même temps. Et donc, ce qui est absolument formidable, les personnes qui auront le plus de succès ces prochaines années, ce sont ceux qui comprennent la technologie, mais qui ont aussi une vraie sensibilité littéraire, qui sont des psychologues, qui connaissent la politique. Et alors, je vais vous dire, on a un exemple dans l'actualité de la semaine dernière, de quelqu'un qui est un chef d'entreprise et qui a de très grandes connaissances en physique, qui a une très grande subtilité d'esprit, contrairement à ce qu'on dit en France, et un sens politique très affirmé, et un sens de la communication absolument merveilleux, c'est Elon Musk, bien évidemment, qui comprend la physique, qui s'est vraiment penché très en profondeur sur le fonctionnement d'un lanceur spatial, sinon il n'aurait pas pu faire ce qu'il fait. Et vous voyez aussi que c'est un merveilleux chef d'entreprise et puis un sacré communicant, donc il arrive à faire
un
tout
mix
ça,
de tout ça quoi.
Les maths c'est très important, mais voilà, le français c'est et à la limite je pourrais vous dire un normalien, normal lettres, c'est aussi formidable. Et le conseil que je lui donnerais, puisqu'il est spontanément très bon en français, c'est de s'intéresser aux mathématiques.
Mmh. Oui, les mathématiciens, Marco Herrmann, directeur recherche technologie chez Thales, vous nous disiez tout à l'heure, on recherche évidemment des mathématiciens. Alors, c'est pas la peine d'avoir fait bac plus 2, 3, ça suffit. BTS. Oui, les mathématiciens ne sont pas les aussi importants, enfin, ne sont pas les plus importants au sein de chez Thales.
Non, mais c'est une des compétences. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les mathématiciens vont gagner chez nous d'autres compétences. Celles du métier, de l'utilisation, etc. Donc c'est fini les disciplines isolées dans les silos. Et je pense que tout le monde est en train de se liser, au-delà d'ailleurs de la technique. Hein. L'économie est importante. Le juridique, avec l'intelligence artificielle, va toucher tout le monde. Enfin bref, toutes les barrières tombent.
Et notamment les RH aussi, par exemple.
Exactement. Enfin, l'ensemble des fonctions et donc l'organisation des sociétés. Mais les mathématiques y ont un rôle. C'est-à-dire que si on les enlève, ce trou-là, les autres fonctions, les autres compétences ne le combleront
pas.
Donc c'est une composante essentielle, mais pas seule.
La France est-elle en retard, Charles Torossian? Oui, on le dit, hein, dans ces 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques. Hein. Pourquoi agir aujourd'hui? Vous parlez d'un niveau catastrophique des élèves français.
Alors j'allais dire que il y a une sorte de convergence, j'allais dire malheureuse, un faisceau de résultats internationaux. Hein, et c'est important que les nations se comparent entre elles d'une certaine manière. Ça permet de se réveiller. Hein, je crois que c'est ce qui se passe. Au départ, ça fait 15 ans hein, qu'on sent qu'il y a une chute. Les gens disent le thermomètre est pas vraiment bon, etc. On a comme ça. Puis un thermomètre, 2, 3, 4, 5.
C'est ce que disent souvent les ministres de l'Éducation. Au moment où sort les rapports PISA,
le dernier thermomètre nous a placé dernier des pays européens. Pour la sixième puissance mondiale.
Dans le classement de l'OCDE, on doit être 25e
Oui, mais on est 19e parmi les pays européens sur 19. C'est le classement interne. Mais concrètement, pour les parents et pour les élèves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a moins de la moitié des élèves qui rentrent en sixième qui savent multiplier 35,1 par 100. Et on a moins de 20% des élèves aujourd'hui qui savent que un quart c'est 0,25. Et alors, vous voyez, à un moment on peut toujours discuter, mais voilà, les faits sont là, donc il va falloir 1, on va 1 remonter nos manches, là. On va tous se mettre à travailler. Et moi, je dis qu'on a confiance dans nos professeurs pour réaliser ce merveilleux chemin.
À condition de les former peut-être différemment, de revoir la formation des enseignants dont les professeurs des écoles, par exemple, sont issus à 80% des filières littéraires. Vous le dites, hein, dans ces mesures pour l'enseignement des mathématiques, c'est quoi le point le plus important à corriger à vos yeux? C'est ça, c'est la formation des enseignants?
Non, la formation, c'est quelque chose peut-être numéro un, mais avant, je voudrais dire quelque chose, cette histoire de 80% de professeurs ici des études littéraires. Moi, j'adore les lettres, donc il n'y a pas de souci. Je voulais dire deux choses. La première chose, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas aimé les maths quand on était enfant qu'on n'aime pas les enseignants.
Les enseignants,
donc
ouais.
ça c'est vraiment
les profs de maths,
voilà,
exactement.
Un, deux, ça. Et deux, c'est pas parce qu'on a été littéraire qu'on peut pas devenir scientifique voilà.
Mais pourquoi donc, ce blocage autour des maths qu'on perçoit souvent, qu'on décèle, c'est quoi? C'est un blocage venu des élèves ou venu des profs, hein?
Alors il y a des vraies difficultés didactiques, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faciles, l'addition c'est facile, je veux dire les mammifères ça va additionner, il y a quelque chose qui est difficile, c'est d'avoir l'intuition de la multiplication, ça c'est vraiment le point noir, et on le voit sur les fractions, si je vous dis 6 x 7, pourquoi 6 x 7 c'est pareil que 7 x 6? Ben, honnêtement, c'est pas si facile que ça. Et les élèves, ça leur paraît pas évident. Des fois, les enseignants savent pas expliquer pourquoi c'est pas si évident que ça. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que il faut mettre tout le monde en confiance. D'abord, un, les professeurs, et deux, surtout les élèves. Il faut que les élèves gardent leur intuition, leur spontanéité. Et le professeur aujourd'hui doit accompagner l'intuition. Moi, je vois beaucoup d'intuition chez les élèves et ils posent toujours des questions un petit peu subtiles. Des fois, on rigole. L'autre jour, on disait, il y a quelqu'un qui disait, on voyait ça sur un forum, quand vous avez une équation et puis il y avait un collégien, l'équation, c'était trouver X. Alors, il avait dit, X, il est là. Alors, tout le monde rigolait, un peu comme ça. Mais en fait, quand vous connaissez un peu de maths, quand vous savez comment on construit les corps, par exemple, de décomposition, en vérité, il avait raison, le gamin. Il avait eu l'intuition, quelque part.
Il faut utiliser quoi? Beaucoup plus d'objets, quelque part, pour faire comprendre les maths. On revient toujours à ce qu'on parle de la méthode de Singapour.
Oui, alors, la méthode de Singapour, si vous voulez, c'est une sorte de conceptualisation des pratiques les plus efficaces. Et je veux dire, pas forcément les plus récentes, mais c'est quelque chose qui a été étudié sur tous les systèmes éducatifs. Et alors, ce qu'on
a retenu, on verbalise.
Trois étapes. Ouais. D'abord, on expérimente, on manipule. Ensuite, on dit ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y a une étape de le dire. Et comme en philosophie, dire, c'est déjà un peu faire. Et puis, il y a la troisième étape où là, le professeur est vraiment le maître là-dedans. C'est la conceptualisation. C'est-à-dire qu'il va aider les élèves, les jeunes, les étudiants, dire bon, ok, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Et on va accompagner les élèves pour aller vers l'abstraction.
On n'impose pas, voilà.
Et c'est-à-dire qu'on va quand même l'accompagner. Je donne souvent l'exemple, si vous prenez trois cônes, vous mettez un cône, genre une glace, là, vous voyez, et vous mettez dans un cylindre, eh bien, si vous en mettez trois, vous remplissez le cylindre. Eh bien, on va dire, si vous faites ça, vous dites, bon, c'était rigolo. Mais si vous dites, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démontré, d'une certaine manière, que un cylindre, c'était trois cônes. Trois volumes de cônes. Eh bien, c'est une formule mathématique. On a fait là des mathématiques. C'est ça le niveau de l'abstraction.
Olivier Lecomte, on voit par exemple les Britanniques qui sont en train d'utiliser cette méthode. Ils sont en train de prendre de l'avance. Et quand on dit prendre de l'avance pour un pays quelque part, en effet, ce que vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus Nicolas ou vous, c'est un enjeu de souveraineté.
Ah oui, c'est Nicolas qui le disait, mais c'est effectivement, évidemment, un enjeu de souveraineté, d'avoir des compétences en interne, j'allais dire, nationales, pour être capable de manipuler les mathématiques, c'est tout à fait essentiel. Enfin, dans tous les domaines de la vie économique, de la vie stratégique, dans tous les domaines. La vraie difficulté d'abord, c'est qu'on va avoir une hystérésis phénoménale, c'est-à-dire que même si aujourd'hui on se met à faire des merveilles dans nos enseignements en mathématiques, malheureusement on a perdu 20 ans. Donc c'est à peu quoi, il y a 800 000 personnes à peu près dans une classe d'âge, donc ça veut dire qu'on a 16 millions de personnes qui sont perdues aux mathématiques. Bon, c'est dommage. Ensuite, le vrai sujet, ça va être effectivement de réintroduire de l'abstraction et de façon intelligente. C'est-à-dire qu'on passe pas directement d'un objet réel à un objet purement abstrait, le fameux X dont on parle, le fameux inconnu X. Bon, on passe pas comme ça de l'un à l'autre et on manipule pas le second très facilement sans avoir probablement un certain nombre d'échelons d'abstraction intermédiaires, j'allais dire. Et progressivement, on peut amener comme ça quelqu'un de passer d'un objet réel parfaitement tangible, un cône, un cube, je ne sais quoi, à qu'est-ce que c'est que cet objet, comment je peux le décrire mathématiquement et en faire quelque chose de totalement abstrait. Et c'est ça le vrai enjeu, c'est ce passage du monde réel au monde de l'abstraction, purement symbolique, j'allais dire, qu'on doit aménager et on doit emmener les gens progressivement dans un chemin qui va les emmener vers l'abstraction. Et une fois qu'on est dans l'abstraction, à ce moment-là, le monde est ouvert puisqu'on peut manipuler les concepts très facilement.
Oui, tout à l'heure, Charles Torossian, qui était avec nous, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, mathématicien lui-même, vous faisiez le constat que le niveau des élèves français est catastrophique. Pourtant, la France, elle a de nombreuses médailles Fields. Hein. On a parlé évidemment de votre complice Cédric Villani. Il y a le franco-brésilien Arthur Avila qui était venu il y a quelques années sur la scène des BFM Awards. Voilà, on en a 12, 13 dans toute l'histoire de ces prix Nobel de mathématiques, entre guillemets, bien entendu. On voit la France qui a des compétences en maths. On voit comment, par exemple, certains géants de la tech ont choisi la France pour y installer des centres de recherche, par exemple. Je pense à Facebook, notamment, pour sa concentration de talents dans les maths, dans l'informatique. Comment on explique ce décalage? Tiens, Aviva Spierglas, qui est chercheuse au CNRS à Poitiers.
Eh bien, écoutez, ce qu'on peut constater, c'est que dans les amphis des facs de sciences, eh bien, ils sont pas très pleins. Oui. C'est-à-dire qu'on n'attire pas beaucoup d'étudiants, de lycéens, vers les études scientifiques.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour les attirer davantage?
Je pense déjà leur présenter les sciences comme elles sont, et non pas comme on les imagine telles qu'elles sont présentées dans les programmes. Ce qui est terrible, c'est de voir qu'il y a des étudiants qui échouent en première année de fac, en physique, en maths, etc., parce qu'ils découvrent que le choix qu'ils ont fait, ils l'ont fait non pas en connaissance de cause, parce qu'on leur a pas présenté la vérité sur ces sciences. Malgré tout, faire des sciences, c'est de temps en temps se confronter à des difficultés. Or, ce qu'on leur fait en classe, généralement, surtout, ça a été un petit peu, je pense que ça partait d'un bon sentiment, on s'est dit, il faut attirer les jeunes vers les sciences, donc on va pas leur faire peur. Donc on va leur montrer des choses simples, on va pas leur montrer les difficultés. Oui, mais malheureusement, à un moment ou à un autre, il faut le faire.
Il faut se mettre à se gratter la tête et à chercher.
Il faut aller dans l'abstraction, que ce soit en physique, en biologie, etc.
Nicolas Bouzou, Charles Torossian, il reste très peu de temps.
Non, mais c'est la question plus générale du pédagogisme. C'est-à-dire qu'on a voulu faire croire que pour intéresser les enfants, il fallait les amuser et leur expliquer que les choses étaient faciles. Et on n'a pas fait ça simplement en mathématiques, on l'a fait dans toutes les disciplines. C'est complètement faux. Il faut leur expliquer le sens. C'est-à-dire qu'il faut leur montrer à quoi ça sert. Mais il faut assumer absolument le fait que c'est difficile. Le travail, c'est difficile, et c'est ça aussi qui émancipe l'humain. Et juste un tout petit mot, comme je n'aurai plus la parole, la plus grande entreprise de commerce en ligne dans le monde aujourd'hui, elle s'appelle Alibaba, c'est une entreprise de commerce, la moitié des salariés sont des ingénieurs.
Alors, j'allais dire que moi, je voudrais rassurer un petit peu les jeunes en disant, oui, attention, et on a appris ça de Singapour, c'est que Singapour, on a la difficulté désirable. Il faut avoir du désir. Oui, donc vous voyez, vous avez 90% de choses que vous savez dans chaque leçon et 10% du neuf qui vous amène un petit peu. Voilà. Donc c'est le pas à pas, vous arrivez à vaincre la montagne. Et donc vous n'allez pas le faire tout de suite. Vos professeurs vont vous accompagner. Cette difficulté, elle doit être désirable. Et il ne faut pas prendre les jeunes pour plus bêtes qu'ils ne sont, mais en tous les cas, ils ont beaucoup plus de capacités qu'on nous.
Allez, vraiment, le demi-mot de la fin, Olivier Lecomte.
On peut souhaiter que tous les jeunes puissent découvrir cette jouissance fantastique qu'il y a justement à utiliser des concepts. Quand on commence à acquérir ce pouvoir finalement de la pensée et qu'on découvre la beauté des mathématiques, souhaitons que ce soit la chose la mieux partagée du monde.
Bon, les 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques, hein, rapport signé de Cédric Villani et de Charles Torossian, mathématicien, inspecteur général de l'éducation nationale. Marco Herman nous accompagnait aussi dans les décodeurs de l'écho, directeur de la recherche et de la technologie dans le grand groupe d'électronique qui est Thales. Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale Supélec. Aviva Spierglas, chercheuse au laboratoire de mathématiques de l'université de Poitiers. Et puis Nicolas Bouzou, le travail et l'avenir de l'homme. Il est économiste à la tête d'Asterès. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.